J'espère surtout ne pas vous fatiguer. C'est un sujet qui est assez délicat, un peu ardu. Je m'efforcerai de laisser de côté tout l'aspect technique qu'il pourrait présenter. J'ai, à la suite de la convention à laquelle frère Villeneuve vient de faire allusion, écrit sur le sujet une assez longue étude qui est toute émaillée de citations, et j'ai dans ma serviette un autre lot de citations. J'ai résolu de laisser tout ça de côté. Je me disais en venant que peut-être je vous en lirai quelques-unes, mais la journée a certainement été fatigante pour vous tous. Et par conséquent, je voudrais pas, si j'y arrive, être trop bavard, et je laisse les citations de côté. Je vais aussi m'efforcer de présenter le sujet en relation avec celui que nous avons déjà abordé cet après-midi. Car malgré les apparences, il y a une relation entre la notion biblique de création et le problème de la loi et de la grâce, tel que nous avons été amenés à le poser cet après-midi et à essayer d'en trouver des solutions. Il est bien évident que je laisserai complètement de côté l'aspect scientifique du problème, le problème de l'évolutionnisme, je ne l'aborderai pas du tout. D'ailleurs, si vous aviez à aborder ce problème, ce n'est pas moi qu'il faudrait inviter, mais plutôt des hommes comme frère Raslouf ou frère Fleury, qui l'ont étudié beaucoup plus profondément que moi. C'est l'aspect biblique de la création que je voudrais présenter. Car je me demande si nous comprenons bien, toujours, ce que la Bible enseigne à propos de la création. Le premier texte que nous lirons se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de chose visible. Et il y a deux affirmations importantes dans ce texte. La première, il est impossible de concevoir la création du monde par Dieu sans poser un acte de foi. De même qu'il n'est pas possible de démontrer l'existence de Dieu par des preuves irréfutables, de même, il n'est pas possible, dès l'instant où l'on croit en Dieu, de prouver qu'il est le Créateur. Il y a toutes sortes d'arguments que l'on peut utiliser pour soutenir la foi si elle existe, pour essayer de l'amorcer là où elle n'existe pas, en faveur de l'existence de Dieu. Et il y a aussi des arguments qui peuvent nous aider en faveur de l'affirmation de la foi, Dieu a créé. Mais il est rigoureusement impossible de le démontrer de telle sorte que tout le monde n'est plus qu'à s'incliner. Un des aspects de Dieu tel qu'il apparaît dans la Bible, c'est ce qu'on appelle son incognito. Même lorsque Dieu vient à nous en Jésus-Christ, il le fait de manière à ne pas frapper les regards. Vous vous rappelez cette expression du livre d'Ésaïe, chapitre 53. Il le fait de manière à ne pas éblouir, à ne pas éclabousser les gens par sa nature divine. Lorsque nous voyons les choses à travers notre prisme, à travers nos lunettes, à nous, à travers notre foi, nous disons, mais enfin, il a fait tant de miracles, il était tellement bon, il était tellement beau, il était tellement juste, tellement saint, comment ne pas l'avoir reconnu? Mais n'oubliez pas que nous voyons cela à travers un condensé de l'histoire. Mais en réalité, Jésus a été parmi les hommes un homme comme eux, et Dieu en Jésus-Christ s'est présenté incognito. Il n'a pas forcé les hommes à croire en lui. Il leur a apporté des arguments, il leur a apporté des éléments de réflexion, mais il ne s'est pas présenté à eux de manière à les contraindre. Car à ce moment-là, le but de Dieu serait raté. Si Dieu avait voulu contraindre les hommes à le servir, il l'aurait fait dès le commencement. Et il aurait évité le problème du mal et toutes les conséquences incalculable du péché, tout le cortège de souffrances que le mal entraîne derrière lui. Dieu n'a pas voulu être servi par des hommes contraints. C'est cela la foi. Nous ne sommes pas obligés d'aller à lui. Si nous y allons, il y a de notre part une décision intérieure, une adhésion profonde. Si nous examinons le problème du monde, il y a une première constatation que nous devons faire. Le monde est contingent. Ce qui veut dire qu'il aurait pu ne pas exister. Si le monde est contingent, il aurait pu ne pas exister. Il a donc une cause. Et alors nous sommes en présence de deux grandes réponses. La réponse athée, et on essaye d'accoucher d'une explication comme le transformisme, l'évolutionnisme ou autres explications semblables. Ou alors on admet Dieu. Et à partir du moment où on admet Dieu par la foi, il y a encore trois possibilités au moins. La plus simple serait de considérer Dieu comme une espèce de fabricant, un démiurge qui façonnerait la matière. C'est ce qu'on appelle le dualisme. Dieu est au commencement, mais il n'est pas seul. Il est au commencement avec la matière. Et Dieu façonne la matière. Une explication, c'est la plus simple. Mais ce n'est pas la réponse biblique. Et fort heureusement pour nous, car si la matière ne venait pas de Dieu, quelle garantie aurions-nous que Dieu puisse en avoir raison? La matière ne serait-elle pas constamment un obstacle en travers de la foi pour admettre que Dieu, un jour, sortira vainqueur du problème du mal? Pour cette raison, nous rejetons le dualisme. Pour ces deux raisons, ce n'est pas une réponse biblique, et nous le verrons tout à l'heure. Et sur le plan philosophique, c'est une réponse hypothétique. Ce n'est pas une réponse qui conduit à l'espérance certaine du triomphe final de Dieu. Deuxième réponse. Vous voyez que nous sommes sur un terrain un petit peu plus difficile que celui de cet après-midi. Mais c'est le sujet qui le veut, il ne l'est pas choisi. Deuxième réponse, c'est ce qu'on appelle l'émanatisme. La matière serait une émanation de Dieu. Tout ce qui a été créé serait des morceaux de Dieu. Dieu serait dans la matière, Dieu serait dans la création. Et vous voyez que cette réponse de l'émanatisme qui met Dieu éparpillé, morcelé, émietté dans la nature est une réponse qui conduit finalement à ce qu'on appelle le panthéisme. Dieu est dans tout, tout est Dieu, c'est le panthéisme. Et cette réponse présente de graves inconvénients, elle aussi, car si Dieu est dans tout, Dieu est responsable de tout. Si Dieu est dans les crochets de la vipère, il est responsable lorsque la vipère meurt. Si Dieu est, d'une manière personnelle, dans les tremblements de terre, il est responsable de toutes les morts que le tremblement de terre engendre. Or ici, il y a un très beau texte à rappeler et qui nous met en garde contre une telle conception des choses. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, qui nous raconte la théophanie que Dieu a offerte à Élie. Élie était découragé. Et Dieu lui offre une sorte de vision de sa nature, de sa personne. Et voici ce que nous lisons. Versets 9 à 13. Et là, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Ah, vous savez que c'est la grande question que Dieu nous adresse constamment. Depuis qu'Adam et Ève ont désobéi au Seigneur et ont dû prendre la fuite devant lui, l'Éternel les rejoint pour leur dire « Que fais-tu ici? Que faites-vous ici ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. C'est une des très belles pages de la Bible que nous n'avons pas besoin de commenter car elle se commente d'elle-même. Et elle nous aide à comprendre que le panthéisme n'est pas davantage enseigné par la Bible que le dualisme matière-Dieu. Dieu n'est pas dans tout. Et surtout, depuis que le péché est entré dans le monde, il y a lieu de faire une distinction. Et nous aurons peut-être le temps de préciser laquelle tout à l'heure. Il reste alors une troisième possibilité. Si ce n'est pas le dualisme, si ce n'est pas l'émanatisme, c'est le créationnisme. Dieu a créé. Nous ne pouvons pas le prouver. Nous ne pouvons que l'admettre par la foi. Mais il se passe ceci. C'est qu'à partir du moment où nous avons cette foi, nous découvrons des quantités d'arguments qui viennent consolider cette foi. Il y a une foule de choses qui viennent à notre aide pour nous dire « Mais oui, c'est cela. » Nous expérimentons Dieu, non pas le Dieu des philosophes, mais le Dieu qu'une nuit Pascal a découvert alors qu'il méditait et que il a écrit sur la feuille de papier blanche qui était sous ses yeux « Dieu, 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 Dieu de Jésus-Christ », non pas le Dieu des philosophes. Nous découvrons dans l'expérience que nous faisons avec Dieu qu'il y a une réponse et que notre prière n'est pas abandonnée à volo, qu'il y a un contact qui s'établit. Et par conséquent, il y a véritablement quelqu'un. Mais vous voyez qu'il y a tout de même et toujours un acte de foi imposé. Je pense qu'il était tout à fait indispensable d'insister d'abord sur cette idée. Puisque nous sommes arrivés à la notion du créationnisme, il nous faut essayer de préciser en quoi le créationnisme consiste. Et alors, nous remontons à la Genèse, tout d'abord. Et nous rappelons les premiers mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. C'est le grand portique de l'Écriture. Et cela devrait être aussi le grand portique de notre vie. Dieu devrait être au commencement de tout dans notre vie, comme il est présenté au sein de la Genèse, au commencement de tout. Au commencement du monde, au commencement du temps, au commencement de la vie, au commencement de la lumière, au commencement des jours, au commencement du travail, au commencement des races. Dans la Genèse, nous avons toute une série de commencements de Dieu. Dieu est au commencement de tout. Bon, mais qu'est-ce que ça signifie au commencement Dieu créa? Le verbe hébreu qui est employé là, le verbe bara, est un verbe très spécial qui n'est jamais employé avec un autre sujet que Dieu. Et par conséquent, l'acte dont il est question ici est un acte dont Dieu seul peut être l'auteur. Il s'agit d'une activité que Dieu seul peut avoir. C'est quelque chose de très important. Et puis il y a autre chose, une autre constatation que font les exégètes, c'est qu'on ne trouve jamais dans la Bible le verbe « bara » avec un complément d'objet direct qui soit une matière. Ce qui nous confirme dans l'idée qu'il n'y a pas une sorte de dualisme. La création ne consiste pas pour Dieu à façonner, à modeler une matière. La matière est le résultat d'autre chose. Et je vous ai dit tout à l'heure, à propos du texte hébreu 11, verset 3, qu'il présente deux affirmations. Nous avons insisté sur la première, l'acte de foi. Nous arrivons maintenant à la deuxième. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est certainement saint Paul, bien que ce ne soit pas lui, assurément, qui est écrit, dit, en sorte que les choses visibles n'ont pas été tirées de choses visibles. Ce que l'on voit n'a pas été tiré de choses visibles. Et devant cette affirmation, on a proposé une explication. On dit, c'est la creatio ex nihilo. En latin, la création de rien. La création du néant. Si par cette formule, on veut réagir contre le dualisme dont nous avons parlé tout à l'heure, on a parfaitement raison. Et au fond, c'est dans ce sens que beaucoup d'auteurs l'ont utilisé. Dans sa dogmatique, par exemple, Émile Brunner, en parlant de la création du néant, de rien, dit « Cela signifie que Dieu n'a pas créé à partir d'une matière préexistante. » Donc jusque-là, c'est parfait, c'est juste, c'est correct. Mais il faut savoir qu'on ne trouve jamais dans la Bible la formule « creatio ex nihilo ». Jamais. La première fois qu'on rencontre cette formule, c'est dans un livre apocryphe, c'est dans le deuxième livre des Maccabées. Et c'est probablement déjà sous l'influence du dualisme perse que cette notion a été introduite dans l'Écriture. Vous savez qu'à la suite de l'exil, le peuple d'Israël a été en contact d'abord avec les philosophies babyloniennes, puis avec les philosophies persanes. C'est là qu'ils ont acquis la notion de l'immortalité de l'âme, qui venait d'ailleurs des Grecs par le truchement des Perses. Et puis, c'est aussi là que les Juifs ont acquis cette notion de création du néant. Et nous avons à nous poser la question, est-ce bien l'enseignement de la Bible? Lisons deux ou trois textes. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, les versets 35 et 36. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles, dit saint Paul. C'est de lui, hors de lui. C'est par lui et c'est pour lui. L'origine, lui. La source, lui. Le moyen, lui. Nous pourrions d'ailleurs préciser Jésus. Car d'autres textes nous montrent que si Dieu est la cause première de la création, le Christ est toujours la cause seconde. Et dans les langues originales, la distinction est précise. Pour ceux parmi vous qui ont fait du grec, je donnerai une toute petite précision. On emploie toujours « dia » plus l'accusatif en grec pour dire que le monde a été créé par Dieu. « Dia » plus l'accusatif qui indique la cause première. Mais chaque fois qu'il est question de la création par Jésus, on n'a plus « dia » plus l'accusatif, mais « dia » plus le génitif. Et « dia » plus le génitif indique toujours une cause intermédiaire. Ainsi donc, la cause première, la source, l'origine, c'est Dieu. La cause intermédiaire, le moyen, c'est le Christ. Et le but, c'est encore Dieu, c'est encore la divinité. Dites-moi, si Dieu dit, c'est hors de moi que j'ai tout sorti, est-ce que ça signifie que c'est du néant qu'il a tout créé? Dieu est tout, sauf rien. Et cela, c'est capital. Je me souviens des discussions que j'avais autrefois avec un de mes collègues qui était professeur de sciences. Quand on lui disait « Dieu a tout créé de rien », il disait « Mais je n'arrive pas à comprendre cela. Du néant, rien ne sort. » D'ailleurs, il faut que nous prenions conscience que nous employons à tort et à travers le mot « néant » sans savoir ce qu'il signifie. Quand, par exemple, les rationalistes, les athées, disent qu'après la mort, il y a le néant, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est ni une découverte rationnelle, car rationnellement, on ne sait pas ce qu'est le néant, ni une découverte empirique, expérimentale, car jamais personne n'a expérimenté le néant. Et si quelqu'un un jour pouvait expérimenter, il y a Dieu. Il y a Dieu qui, comme le dit l'auteur des psaumes, remplit tout. Il y a Dieu qui est tout et en tout. Il y a Dieu d'où tout procède, d'où tout vient, duquel tout sort. Aujourd'hui, voyez-vous, avec la notion d'énergie qui a été tellement mieux comprise au cours des dernières décennies, on peut comprendre comment les choses ont pu se passer. L'énergie qui sort de Dieu, l'énergie qui provient de Dieu, est employée par Dieu pour la création. Ce n'est pas un émiettement de Dieu. Ce n'est pas du tout l'émanatisme. Car cette énergie, Dieu l'utilise sans perdre quoi que ce soit de sa nature. Et c'est la grande révélation de la théophanie que Dieu offre à Moïse dans le désert, sous la forme du buisson qui flambe sans se consumer. Ce buisson donne de l'énergie, donne de la flamme, donne de la lumière, donne de la vie, et il ne se consume pas. Ainsi en est-il de Dieu. Et voyez-vous, nous retrouvons cette idée à travers les quantités de textes de l'Écriture. Quand par exemple, la Bible dit que Dieu a créé par sa parole. Relisons le texte au début de l'Épître aux Hébreux. Hébreux au premier chapitre. À après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, par lequel, dia plus le génitif, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, soutenant toute chose, non seulement il crée, mais il soutient par sa parole. Dieu n'est pas comme un démiurge qui d'une chiquenaude lance le monde dans l'espace et s'en désintéresse. Dieu continue à être à l'œuvre dans sa création. Il soutient toute chose par sa parole puissante, mais la parole de Dieu. Voyez, je crois que de temps en temps, nous simplifions à l'excès. Et nous imaginons Dieu comme une sorte de merveilleux vieillard assis sur un trône et qui, de sa parole, dit que la lumière soit, puis la lumière fut. Et puis, nous continuons à faire des anthropomorphismes quand nous lisons « Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre ». Nous imaginons Dieu en train de se pencher vers la terre et mettant un peu d'eau avec la glaise et puis faisant une bonne pâte et puis et sculptant un homme comme un potier. Je ne suis pas du tout contre cette image. Remarquez, s'il y en a parmi vous qui la trouvent satisfaisante, ça ne me dérange aucunement. Et je crois qu'il y a moyen de se faire du texte une idée tout de même beaucoup plus structurée. Il suffit de savoir que le verbe « former » qui est employé là est exactement le même que la Bible emploie toujours lorsqu'il est question de la formation d'un enfant dans le sein de la mère. Et puis on se rend compte que ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus complexe. Est-ce que les mamans savent comment elles forment leur bébé dans leur sein? C'est le plus beau des mystères qui existent. Quelque chose de prodigieux qui défie l'imagination. Et il ne s'agit pas d'aller dans son sein là pour sculpter une belle petite image et puis attendre qu'elle prenne vie. Il y a tout un processus auquel le psaume 139 fait deux fois allusion quand il dit que nous avons été tissés dans les profondeurs de la terre. De quelle façon, nous n'en savons rien du tout. Mais c'est le mystère de la création de Dieu. Donc, faisons attention de ne pas projeter dans nos interprétations des textes, d'une manière un peu trop simpliste et puérile, des anthropomorphismes. Alors, quand on nous dit que Dieu créa par sa parole, de quoi s'agit-il? Ah, mes amis, le mot « dabar » en hébreu, le mot « logos » en grec, sont des mots d'une richesse telle qu'on a pu, sur ce seul mot, écrire d'énormes volumes. Tellement ils sont riches. Ah, la parole de Dieu. Ce ne sont pas simplement des mots et des phrases, mais c'est l'énergie de Dieu, c'est la substance même de Dieu. Invisible, ah oui, certes, comme l'énergie, mais néant, ah non. Et je reviens à Hébreux 11, 3, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles, c'est-à-dire d'une substance qui vient de Dieu lui-même, que Dieu lui-même offre sans pour autant s'amoindrir. Alors, je fais un nouveau rapprochement. Épître aux Colossiens, premier chapitre. Colossiens 1, et nous lisons les versets 15 et 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps d'église, ainsi de suite. Nous avons ici trouvé une autre préposition. Nous avions déjà eu par, nous avions déjà eu hors de, nous avions déjà eu pour. Et ici nous avons, est-ce que vous avez remarqué quelle est la préposition nouvelle ? En. La table a été fabriquée par un menuisier. Le vêtement a été fabriqué par un tailleur. La maison a été construite par un maçon. Mais on ne peut pas dire que la maison a été construite en son maçon. Est-ce que vous voyez la nuance ? Or, nous avons été construits, pardon, créés. Et c'est tout autre chose. Nous avons été créés en Christ. Un peu comme l'enfant qui est conçu dans le sein de sa mère. Et lorsque l'enfant est sorti du sein de sa mère, est-ce que la mère a un organe de moi ? Est-ce qu'elle a... Je ne sais pas, moi... Oui, elle a un poids de moi, mais elle est restée elle-même tout entière. Il ne lui manque absolument rien, elle est restée tout entière, intègre. De même le Christ, de même Dieu en Christ, nous a créés sans s'amoindrir, sans diminuer, sans s'appauvrir, sans s'exténuer. Et il nous a créés hors de lui, en Christ. Par Christ et pour Christ. Il nous faut maintenant prendre le prologue de l'évangile selon Jean. Et vous allez voir qu'il y a dans ce prologue quelque chose d'absolument remarquable et qui vient confirmer d'une façon absolue ce que nous venons de dire. Je vais d'abord le lire tel qu'il est traduit par Second, et puis je vous en donnerai une traduction absolument littérale à partir du texte original. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous savez sans doute que les originaux de la Bible, tels qu'ils nous sont parvenus, du moins les plus anciens, sont écrits uniquement en majuscules. Toutes les majuscules sont juxtaposées. Il n'y a aucune séparation de mots, aucune séparation de versets, encore moins de chapitres. Les lettres se suivent, sont collées les unes aux autres, les unes derrière les autres. Et on avait adopté ce système parce qu'en grec, il suffit parfois d'une lettre pour changer complètement le sens d'une phrase. En adoptant ce système, on évitait les possibilités de corruption du texte. Et c'est au XVe siècle qu'un Français du nom de Stéphanus a pour la première fois proposé l'établissement d'une distinction entre les chapitres et puis les versets de la Bible. Par conséquent, si la Bible est inspirée tout entière, la division en versets et en chapitres ne l'est pas. Et il arrive que l'on puisse améliorer le sens du texte en modifiant un tout petit peu la coupure du texte. C'est ce qui arrive ici. Et je vais maintenant vous proposer une traduction absolument littérale, simplement en modifiant un peu la ponctuation. Et je vous expliquerai ensuite ce que j'aurai fait. Au commencement était le Logos, le Verbe, la parole. Le Logos était tendu vers Dieu. Et le Logos était Dieu. Celui-là était au commencement tendu vers Dieu. Toutes choses, à travers lui, sont devenues. Sans lui, rien n'est devenu. Ce qui est devenu, en lui, était vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence. Dans notre texte, dans notre version seconde, on nous dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Et moi, je vous ai proposé comme traduction « Tout a été fait par lui, rien n'a été fait sans lui. » Je n'ai pas dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Tout a été fait par lui, rien n'a été fait sans lui. Et frère Riemens confirmera que nous avons là un merveilleux hébraïsme. Parce que quand les Hébreux veulent affirmer quelque chose avec insistance, ils le disent d'abord d'une manière positive, et ils le redisent d'une façon négative. Tout a été fait par lui, rien n'a été fait sans lui. Mais pourquoi fallait-il ajouter rien de ce qui a été fait? Il faut littéralement forcer le texte pour arriver à une traduction semblable. Alors que, avec une ponctuation simplement un peu différente, ce qui a été fait était vie en lui. Vous voyez, ce qui a été fait, je le rattache à la phrase suivante. Et à ce moment-là, le texte coule de source, à la fois quant à sa structure littéraire, quant aux règles de la grammaire, de la phraséologie en grec, ça coule de source, et nous obtenons, et c'est cela qui m'intéresse, nous obtenons un véritable secret, la chose la plus merveilleuse qu'un homme puisse découvrir. Tout ce qui a été fait était vie en lui. Et c'est la raison pour laquelle c'est de lui, c'est de Dieu en Christ que nous sommes passés du possible à la réalité. Nous sommes devenus, dit le texte, en réalité. Nous étions en lui, à l'état virtuel, tout comme nos enfants sont en nous, père et mère, à l'état virtuel avant d'être nés. Et la création a consisté précisément à faire passer à l'état réel, historique, hors de Dieu, devant Dieu, ce qu'il portait en lui. Si cela ne vous émeut pas, mes amis, c'est que je n'ai pas su m'exprimer. Parce que moi, de penser que j'étais en Christ, dans l'éternité, ça m'émeut. À partir de ce moment-là, il y a des quantités de choses qui pour moi deviennent claires et que je ne pouvais pas comprendre avant. Par exemple, comment dire que c'est hors de Dieu que les choses ont été créées? Et puis surtout, comment dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi? Comment dire ce que l'apôtre Paul affirme au chapitre 3 de l'épître aux Colossiens, versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des images? Ah, vous savez, faire très attention lorsqu'on dit ce sont des images. Parfois, nous prenons pour image des choses qui, en fait, sont des réalités. Et ici, c'est le cas. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, dans la gloire. Et lorsque l'apôtre Paul dit que le Christ, en remontant vers son Père, nous a tous emmenés avec lui, que nous sommes tous assis en lui devant Dieu, dès maintenant, c'est une réalité virtuelle, mais vraie. Voilà la notion biblique de création. C'est tout autre chose que la création ex nihilo, la création du néant, de rien. Encore une fois, cette affirmation a été utile et elle est utile pour lutter contre le dualisme. De ce point de vue, elle peut être employée, mais théologiquement, elle ne correspond pas vraiment à une vérité. J'ai eu la surprise, il n'y a pas tellement longtemps, de découvrir dans une vieille traduction de la Bible faite par les cathares, une traduction de Jean 1, identique à celle que je viens de vous proposer. Les cathares avaient compris le texte de cette façon-là. Et curieusement, la Bible de Jérusalem, publiée par les catholiques, propose la même traduction, ou à peu près. Peut-être moins littérale, mais on retrouve à peu près cette même idée. De sorte qu'actuellement, on commence à trouver des traductions qui serrent le texte de plus près et qui respectent cette idée. Alors vous voyez que Hébreux 11, 3 prend pour nous une dimension, un relief considérable. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On ne connaissait pas à l'époque la notion d'énergie telle qu'elle est définie actuellement. Mais ça devient clair. Et quand il est dit que Dieu est tout et en tous, ça devient clair. Moi, je sais ce que ça veut dire, je suis dans mes enfants. Rien ne peut leur arriver qui me laisse indifférent. Et si j'avais à choisir entre une souffrance qui leur serait à eux infligée ou à moi, je sais que je n'hésiterais pas. Sans forfanterie, je crois pouvoir le dire. Parce que je ressens beaucoup plus encore en moi tout ce qui peut arriver en eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été faits en moi, ils sont sortis de moi et je le sens. À ce moment-là, est-ce que vous comprenez ce que veut dire le texte du psaume 8 ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? On interprète souvent ce texte en mauvaise part, comme s'il signifie « tu t'occupes de ce misérable ». Ce n'est pas du tout ce que le psalmiste a écrit. Et s'il avait écrit cela, l'auteur de l'Épître aux Hébreux aurait commis une faute grave en appliquant le texte à Jésus. Quand le psalmiste écrit « qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Ce n'est pas un texte qui avilit l'homme. C'est un texte qui montre tout ce que l'homme représente pour Dieu. Dieu ne pouvait pas nous créer plus grand, plus beau, plus parfait. Dieu ne pouvait pas nous donner davantage. Il s'est donné en nous. Et alors, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu pour nous qui s'éclaire, mais c'est le rôle du Christ. Pourquoi Jésus-Christ est-il l'unique médiateur ? Il ne peut pas y en avoir d'autre. Pourquoi l'apôtre Pierre prêchait-il à la Pentecôte ? Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Est-ce en vertu d'une décision arbitraire de Dieu ? C'est Dieu qui a décidé que ce serait comme ça et pas autrement, et alors, tiens-tête, opiniâtrement. Pas du tout. Nous ne pouvons être sauvés qu'en Christ, parce que c'est lui qui est notre vie. Il est notre vie est en lui. Dans la mesure où je vis comme Dieu le veut, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et il y a toute la notion de solidarité entre le Christ et les hommes qui s'éclaire. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, c'est à moi que tu l'as donné. Tu vas en prison faire une visite à un malheureux, un prisonnier. C'est moi que tu as visité. Saul, tu vas persécuter les chrétiens à Damas? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi est-ce que le Christ se reconnaît dans les chrétiens persécutés, dans le malheureux qui a soif, dans le prisonnier qui souffre d'avoir perdu la liberté? Mais c'est parce que tous ces hommes ont été créés en lui. Et le drame du péché consiste précisément à lui avoir tourné le dos, avoir voulu se passer de lui. Le drame du monde, c'est qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que Dieu est tout et en tous. Je vous ai parlé tout à l'heure de panthéisme, et le panthéisme est faux, parce qu'à vouloir mettre Dieu partout, on finit par le dissoudre dans tout. Par contre, il suffit d'ajouter un petit mot à ce panthéisme pour avoir une notion merveilleusement biblique, le panenthéisme, tout en Dieu, ça c'est la notion biblique. Et vous savez que lorsqu'Ésaïe a voulu définir, peindre la situation du monde au-delà de la rédemption, lorsque le drame du péché sera terminé, il a précisément dit: la connaissance de l'Éternel recouvrira toute chose, comme l'eau de la mer recouvre le fond. Et dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul n'a pas trouvé de formule plus adéquate pour exprimer sa pensée que celle-ci: et Dieu sera tout et en tous. Pourquoi est-ce possible? En vertu de la notion biblique de création. En vertu du procédé, si vous me permettez de m'exprimer de la sorte, que Dieu a utilisé pour créer l'âme. Et on pourrait maintenant faire un pas de plus, mais je vais simplement le suggérer. Nous avons refusé la notion de dualisme. Nous avons refusé la notion d'émanatisme. Nous avons accepter la notion de création biblique. Mais cette notion de création biblique ne pourrait-elle pas être définie d'une façon plus précise? Eh bien, je crois que oui. Et c'est encore la Bible qui nous fournit le mot clé. Qu'est-ce que la création biblique? C'est le don d'une participation. Nous participons au divin. L'expression est employée à la fois par l'apôtre Paul et par l'apôtre Pierre, et j'ai été surpris de constater que Sir White l'a utilisée maintes fois. À une époque où pourtant tout ce que j'essaie de vous dire maintenant était absolument inconnu par la théologie. Et Sir White l'avait senti. Et a constamment insisté sur la notion de participation. Nous sommes appelés à participer au divin. C'est encore un très grand problème du point de vue théologique et métaphysique. Quels sont les rapports entre Dieu et l'âme? Quelles sont les possibilités de rapport entre Dieu et l'âme? Une participation. Dieu donne sa vie à l'âme, mais il la donne sous la forme d'une participation. Une petite image, peut-être, pour tenter d'aiguiller vos propres réflexions sur le sujet. Si j'avais à participer avec vous à un gâteau, il faudrait déjà qu'il soit assez gros pour que nous en ayons tous une bouchée. Parce que si je partage le gâteau, il faut bien que nous en ayons un morceau chacun. Mais si, au lieu de vous faire plaisir avec le partage d'un gâteau, on décide, comme l'a fait tout à l'heure frère Villeneuve, très opportunément, de partager avec nous un morceau de piano, est-ce que nous en avons moins, chacun, parce que nous sommes nombreux, à y participer? Nous en avons tous exactement la même part.
Et le morceau n'est pas amoindri pour personne, au contraire. Dans de nombreux cas, il y a comme une ferveur plus grande lorsqu'on est nombreux à participer. Vous savez que pour les plans de Saint-Jour, il ne faut peut-être pas être trop nombreux, mais il ne faut pas être non plus trop peu nombreux, parce que le nombre joue. Ça, c'est la notion de participation. C'est un mystère, il ne m'est pas possible d'essayer d'éclairer ce mystère pour vous. Comment Dieu s'y prend-il pour nous faire participer à sa vie sans en perdre la moindre miette? Je n'en sais absolument rien. C'est le mystère de Dieu, il faudrait expliquer Dieu pour expliquer cela. Au fond, quand on comprend bien la notion biblique de création, on rejoint le mystère de Dieu lui-même. Mais que de choses qui deviennent beaucoup plus faciles à comprendre et qui prennent une dimension tout à fait merveilleuse. Et vous voyez que nous ne sommes pas très loin du sujet que nous avons abordé cet après-midi. Qui me délivrera de ce corps de mort? D'où vient-il ce corps de mort? Du fait que je me suis séparé du Christ? Qui me délivrera? Celui dont je me suis séparé dans la mesure où je reviens à lui, le Christ, parce que c'est en Christ que j'ai été créé. La médiation du Christ commence à la création, elle continue à l'incarnation et elle prend toute sa dimension à partir de l'ascension. Est-ce que le Christ est parti là-haut pour se reposer et nous abandonner à nous-mêmes? Moi j'ai fini, débrouillez-vous maintenant, je m'en lave les mains. Là-haut, il est debout, à la droite de Dieu, prêt à nous secourir à tout instant, parce que ce que nous faisons l'atteint jusque dans sa chair, l'atteint jusque dans son être. Le Christ n'a qu'une ambition.